Bonjour tout le monde, c'est un plaisir que de vous retrouver pour un autre épisode d'analyse biblique. Cette semaine, nous allons parler de la parashat Mishpatim ainsi que de la parashat Shekalim. La parashat Mishpatim est une de mes parashats préférées car elle pose les bases de la structure légale qui réglemente non seulement les relations interpersonnelles, mais aussi le cadre moral de l'individualisme dans le judaïsme. Les Mishpatim, les règles légales, à travers le Passouk, ne sont pas imposés au peuple, mais plutôt exposés. Ils sont placés devant eux. Cette première phrase, qui est très forte pour moi, structure la relation entre l'individu et la loi. La loi ne s'impose pas, mais s'accepte. Sa mise en place relève d'un choix personnel plutôt que d'une obligation de nature socio-théologique. En d'autres termes, l'acceptation des règles, des droits, des mishpatim, doit être précédée par une exposition claire et une compréhension idéologique encore plus claire. Les mishpatim se doivent d'être mis en place de manière personnelle. Ils doivent être acceptés par l'individu qui accepte ces règles en connaissance de cause car ils sont placés et exposés devant lui. Cette ordonnance divine, pour moi, définit un principe très fort. La loi, la moralité, tout cela dérive d'un choix individuel et ce choix devient l'essence même de l'homme libre, l'homme qui s'émancipe, à travers l'acceptation d'un cadre moral et légal qui régule, mais aussi inspire sa vision du monde. Cependant, une question qui a été maintes fois posée saute aux yeux dans la lecture de cette paracha. De toutes les lois qui auraient pu être exposées et qui possèdent un caractère central à l'identité juive en tant qu'entité légale, pourquoi la Torah déciderait-elle de commencer avec une exposition sur l'esclavage? La Torah, et cette paracha en particulier, démontre la nécessité de choix dans l'acceptation des droits, en mettant côte à côte le concept d'acceptation des lois et la notion d'esclavage. À travers ça, elle définit que ces deux idées sont liées et jalonnent le cheminement personnel d'un individu dans son choix d'émancipation, et cela à travers l'acceptation des lois. Effectivement, l'esclavage exposé dans ce texte est très spécifique. Il n'est pas forcé, mais découle plutôt d'un choix personnel. Le Eved Ivri, l'esclave hébreu, possède un statut spécifique. C'est un esclavage de nature temporaire qui s'accompagne de responsabilités très spécifiques. Effectivement, cet esclave, l'esclave juif, le Eved Ivri, possède un choix dans l'acceptation de son statut d'esclave et utilise son libre arbitre afin de se déposséder de sa liberté. Effectivement, il en change temporairement sa liberté physique, juridique et morale afin de se dégager d'une obligation ou de payer une dette. Cet esclavage se doit d'être inscrit dans un cadre temporel, dans la mesure où après 6 ans, il se doit de retrouver sa liberté en compagnie de sa famille. Cet esclavage, qui reste très encadré, se doit donc d'être temporaire. Ces deux concepts de loi, le concept de liberté et de libre arbitre, centraux dans la vision biblique du judaïsme, demeure intrinsèquement lié à la possibilité d'une rédemption. L'essence même d'un collectif qui devient peuple repose sur une émancipation du statut d'esclave et l'acceptation volontaire de la Torah en tant que cadre juridique et spirituel qui régisse nos vies, notre cadre social et inspire notre quête de perfection morale. Pour moi, cette paracha délivre un message clair, une conclusion forte. La Torah, les lois, les Mishpatim ne peuvent être imposées aux individus comme une forme d'esclavage théologique, comme une sorte d'impératif divin incompréhensible qu'il faudrait suivre aveuglément sans questionnement ni enquête de nature intellectuelle. La Torah, telle que transmise, se doit d'être abordée et comprise à travers le prisme de l'expérience humaine et se doit d'être profondément ancrée dans l'idéal de liberté individuelle. Comme l'affirme d'ailleurs la célèbre expression talmudique « Torah lo bashamayimi ». Autrement dit, la Torah n'inspire pas à être un corpus d'enseignements ésotériques, détachés de l'humain, mais plutôt une révélation profondément personnelle qui ne peut être saisie qu'à travers l'individualité et l'expérience humaine. La centralité de la liberté intellectuelle et de l'individualité apparaît de manière absolument lumineuse dans les deux parachiotes de cette semaine, Mishpatim et Shekalim. Dans le texte de Mishpatim, le véritable Eved Ivri, le véritable esclave hébreu, est celui qui, dans un sens métaphorique, perçoit la loi et sa structure légale comme une vérité éternelle et immuable. C'est celui qui refuse de questionner, de remettre en cause l'ordre établi, qui recherche, à travers son attachement à la stabilité sociale, au détriment du conflit intellectuel. Celui qui déclare « Avti et Adoni, j'aime mon maître », celui-là ne pourra jamais réellement s'émanciper. À travers cette déclaration, cet esclave rejette la nature personnelle des Mishpatim et de fait renonce à son individualité au profit du confort et du conformisme social. Sa vie, sa religion, sa condition lui conviennent dans l'absence de décision. Son maître décide à sa place. Et cette absence de charge mentale lui permet de s'inscrire, lui, à travers sa famille, son cercle intime, sans jamais avoir à se soucier, questionner, remettre en question ou même penser. En conséquence, cet individu qui a décidé lui-même de s'asservir, qui est lui-même asservi, doit demeurer au seuil, cloué au linteau de la porte, métaphoriquement parlant, dans l'impossibilité quasi éternelle d'intégrer pleinement le peuple d'Israël et l'Alliance. L'oreille percée est, selon Rashi, un châtiment. Un châtiment pour avoir refusé d'écouter les paroles divines au mont Sinaï, le moment où, à travers le don de la Torah, Dieu a institué la liberté et l'indépendance individuelle comme marqueur du peuple juif. L'importance et la centralité de l'individualité trouvent un prolongement quasi naturel dans la parashat Shkalim. En effet, Dieu demande à chaque individu d'apporter une demi-pièce. Il aurait pu le faire d'une autre manière, mais au lieu d'imposer un décompte par tribu ou par famille, Dieu exige de chacun de donner le rachat de son âme. C'est une expression de l'unicité et du caractère unique de chaque personne à travers un signe d'appartenance en peuple. Ce grand geste d'égalisation démontre, d'une manière assez claire, qu'aucune élite, aucune hiérarchie religieuse ne possède le droit d'effacer la perception unique de l'individu. Aucun être humain n'est plus important que son prochain aux yeux de Dieu et d'une collectivité composée d'individus uniques. Chacun se doit et est reconnu dans son unicité et se doit de s'émanciper par un acte personnel. Autrement dit, la Torah dans cette paracha rejette la nécessité de rejeter son individualité et nous demande de ne pas se laisser emporter par les conventions sociales ou religieuses. La Torah appelle à l'émancipation individuelle. Ce message d'individualisation rationnelle et de rejet du conformisme est des plus actuels. À un moment de notre histoire où la radicalisation devient norme, la Torah nous ordonne de ne pas rester cloué au seuil, de ne pas être cet esclave hébreu. Elle nous ordonne d'agir en bénéchorim, en homme libre, des individus libres, penseurs libres, intellectuellement engagés, prêts à remettre en cause l'ordre établi et à lutter contre l'injustice. Cette obligation n'est pas seulement une suggestion, elle est au cœur même de notre identité collective. Shabbat shalom.